Alors, bonsoir à tous. C'est notre dernier rendez-vous pour cette année. On va essayer d'aller au bout de la première partie de l'Évangile, jusqu'au chapitre 12, en commençant par le chapitre 11. C'est pas impossible que ces chapitres-là, 11 et 12, aient été rajouté dans une des versions un peu terminales de l'Évangile. Vous vous souvenez qu'il y a une histoire rédactionnelle un petit peu compliquée pour l'Évangile, avec notamment sans doute des corrections antignostiques, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a des savants, des exégètes qui disent que peut-être il y avait une première version de l'Évangile où le ministère public de Jésus s'arrêtait à la fin du chapitre 10. Et puis ça a embrayé directement au chapitre 13. Ça, bon, c'est une hypothèse. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de voir comment dans le chapitre 11, effectivement, il y a des... par la résurrection de Lazare, il y a évidemment une... comment dire, un enseignement, il n'y a pas que ça, mais entre autres un enseignement sur le côté matériel de la résurrection, même s'il ne s'agit pas de la résurrection... à la fin des temps, mais c'est sûr que ça ne va pas du tout dans le sens d'une interprétation gnostique de l'Évangile, puisque selon le gnosticisme, la vie dans un corps matériel, c'est plutôt un inconvénient. Vous voyez, le fait que Jésus ressuscite Lazare, en fait, il le réanime comme un enseignement, une espèce de prophétie, un signe d'une résurrection d'une autre nature qui aura lieu à la fin des temps. Ça montre que cette résurrection à la fin des temps, c'est bien une résurrection qui va concerner le corps de matériel, le corps de chair. Donc ça, en tout cas, c'est intéressant de repérer que dans ce chapitre 11, comme dans d'autres endroits de l'Évangile, par exemple, vous vous souvenez de la parenthèse eucharistique du chapitre 6, il y a certainement donc un enseignement qui est une correction de ces interprétations gnostiques qu'on pouvait trouver dans les communautés joanniques. Alors, on va lire ce chapitre. On nous dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Alors, Béthanie, c'est un petit village qui est près du mont des Oliviers, donc tout juste à côté de Jérusalem. On nous dit le village de Marie et de sa sœur Marthe. Alors, ces deux personnes, on les connaît que dans l'évangile de Luc. Enfin, ces trois personnes, Lazare, Marthe et Marie, mais surtout Marthe et Marie, on les connaît que par l'évangile de Saint-Luc et l'évangile de Saint-Jean. Là encore, ce n'est pas la première fois qu'il y a... on repère une certaine affinité, assez compliquée à interpréter d'ailleurs, entre Saint-Luc et Saint-Jean. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Alors, c'est ce qu'on appelle littérairement une prolepse. Alors, c'est un mot savant qui veut simplement dire une anticipation, puisque cet épisode, l'onction de Jésus, des pieds de Jésus par Marie de Béthanie, ça aura lieu au chapitre 12. Ça nous est présenté là parce que, évidemment, l'auteur de l'Évangile considère que son lecteur, c'est pas la première fois... C'est pas quelqu'un qui ignore tout de Jésus avant de lire l'Évangile. Donc c'est donc intéressant, hein, comme remarque. Ça veut dire que pour l'auteur de l'Évangile, on sait déjà des choses sur Jésus qu'on connaît par la tradition ou peut-être par d'autres évangiles. Ou peut-être même, alors là évidemment, ça serait encore une autre interprétation, mais par une première version de l'Évangile de Jean, où il n'y avait peut-être pas 11, mais il y avait 12, ou un morceau de 12 et puis 13. Mais enfin bref, on sait déjà qu'il y aura cet épisode de cette onction anticipée de Jésus, anticipée puisque c'est interprété comme les rites funèbres que Jésus ne recevra pas parce qu'il n'y a pas assez de temps pour qu'il en bénéficie entre sa mort le vendredi et puis le début du Shabbat, le vendredi soir. On nous dit que c'était son frère Lazare, donc le frère de Marie, qui était malade. Vous voyez que chez Saint Jean, il y a l'idée quand même, Marie et sa sœur Marthe. Et puis on se focalise sur Marie. Marie a une espèce de valeur un peu plus grande ou d'importance plus grande au plan symbolique que Marthe. Il faudra essayer de comprendre ça, d'ailleurs, précisément au chapitre 12. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est pas un simple, bon, c'est un constat, c'est une information, mais évidemment, on peut entendre une demande implicite. Sachant que Jésus a guéri un paralytique, il a rendu la vue à un aveugle, évidemment, on s'attend, les sœurs Marthe et Marie s'attendent ou espèrent que Jésus va venir guérir Lazare. D'autant plus qu'on nous dit que celui que tu aimes, donc il y a un rapport d'amitié entre Jésus et Lazare, donc on se dit combien plus, si on est ami de Jésus, ben, combien plus Jésus va se donner du mal pour éviter les conséquences d'une maladie dont on devine qu'elle est grave, hein, c'est pas un simple rhume. Hein. Alors ce côté demande implicite, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Donc un constat, mais en fait qui cache une demande. On a déjà eu ça dans l'évangile de Saint Jean. À Cana, bien sûr, oui, tout à fait. Hein, donc il y a là, c'est un peu le même motif. Dès qu'il l'a pris, Jésus dit: Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. Alors je ne reviens pas sur le sens de la gloire, ça je vous l'ai dit 10 000 fois, donc vous vous en souvenez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'affinité entre ce regard de Jésus qui voit, disons, une finalité théologique, puisque c'est pour la gloire de Dieu, ici, et puis ce qu'on avait. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tiens, alors là, je vous pose. L'aveugle-né, voilà, exactement. C'était pas tout à fait la même formulation, nous parler des œuvres. Ça, c'était au verset 3. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Je suis au chapitre 9, verset 3. Ici, on nous parle de la gloire. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire. C'est pas tout à fait le même vocabulaire, mais disons, je retiens quand même que le Jésus joannique, il nous fait entrer dans une intelligibilité profonde du dessein de Dieu qui se manifestera seulement au terme. C'est un peu comme au cinéma, hein. Tant qu'on est. Si vous quittez le film à mi-parcours, vous aurez peut-être le début de l'intrigue, mais vous ne serez pas capable de raconter où est-ce que l'histoire, enfin comment l'histoire se conclut, et donc où est-ce que le metteur en scène, ou l'auteur du film, où est-ce qu'il voulait vous conduire? Vous voyez, l'intelligibilité, le sens d'une œuvre ne se dévoile totalement qu'à la fin. Là, Jésus nous fait entrer dans ce mouvement-là, alors que bien souvent, nous nous sommes impatients. Hein, surtout bon, en cas de maladie, ou l'aveugle-né, ou le Lazare, on a du mal à patienter jusqu'à la fin. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et on précise un petit peu ce qu'on avait déjà au chapitre 3. On savait que Lazare était aimé de Jésus, là on nous dit, mais il y a même, c'est toute la famille en fait qui sont des amis de Jésus. Ce qui a pour effet, l'intérêt, c'est que ça dramatise encore plus la situation, puisqu'on se dit, ben, il a trois bonnes raisons de guérir Lazare, pas simplement une, mais trois, il aime les trois, et évidemment, si Lazare meurt, ben, ça sera une grande tristesse pour ses sœurs, donc ça rajoute encore à une motivation, et donc ça crée un effet d'attente. On s'attend à ce que Jésus dise: ben, j'arrive tout de suite pour guérir Lazare. Cependant, alors oui, cependant, ben, parce que oui, Jésus ne va pas faire comme on s'y attend, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Hein, il y a, dans l'évangile de Saint Jean, il y a une attention à la temporalité du salut. Jésus est maître du temps. Jusqu'à son heure, l'heure qui est l'heure de sa passion, et ça fait partie aussi de la christologie haute, c'est que Jésus sait ce qu'il fait, il le fait au bon moment, et il n'est pas question pour lui de changer cette temporalité pour des raisons humaines, mais c'est cette temporalité, elle est là tout entière au service de la révélation de Dieu, c'est-à-dire la gloire, puisque c'est ça. La gloire de Dieu, c'est la vérité de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ et notamment dans sa mort sur la croix. Donc cette notice temporelle, en fait, elle nous rappelle que le moteur de l'action de Jésus, ce n'est pas les affections humaines, c'est l'accomplissement du dessein du Père, même si ça peut paraître un peu cruel pour les affections humaines. Après quoi seulement, il dit aux disciples, retournons en Judée. Bon, la Judée, évidemment, hein, c'est là où il y a Jérusalem, donc Béthanie est en Judée, hein, parce que Béthanie, c'est un petit village à l'est, c'est sur le mont des Oliviers. Hein. On y passe en général quand on va faire un, quand on fait un pèlerinage en Terre Sainte. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider. Un motif qu'on a eu plusieurs fois, donc déjà au chapitre 5, c'est le début de l'opposition à Jésus après la guérison du paralytique à Bethesda. Au chapitre 7 et 8, on a eu ça plusieurs fois, bon, c'est deux chapitres très durs, où, vraiment de polémique entre Jésus et les Juifs de Jérusalem. Encore en 10, 31, ça on ne l'a peut-être pas lu, mais... Donc après après les paraboles du bon pasteur, du bon berger, on nous dit les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Et alors Jésus interrogeait, mais pourquoi est-ce que vous voulez me lapider? Et fameuse ironie johannique, les Juifs lui dirent, c'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc ironie parce qu'en fait, Jésus ne se fait pas Dieu, il est Dieu. Donc évidemment, le contexte, c'est un contexte hostile et les disciples réagissent, là encore, on pourrait dire, avec des affections humaines. Oui, c'est un peu le même motif. Marthe et Marie laissent parler les affections humaines et voudraient que Jésus vienne guérir Lazare tout de suite. Et les disciples, eux, alors ça va dans l'autre sens, puisqu'ils ne veulent pas que Jésus aille en Judée. Ce qui montre d'ailleurs que si la logique du salut ne faisait qu'obéir aux affections humaines, comme nos affections humaines sont extrêmement contradictoires d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre, personne ne s'y retrouverait. Donc heureusement que c'est le dessein de Dieu qui commande, le dessein du Père qui commande l'action de Jésus. Alors que répond Jésus? N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Alors deux choses hein, dans cette réponse un petit peu énigmatique évidemment, hein, le Jésus dans l'évangile de Saint Jean, et dans tous les évangiles, est volontiers énigmatique, il parle par parabole. Il oppose le jour et la nuit. Le jour, c'est une période où finalement il n'y a pas de danger. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Là, il y a le soleil, donc on ne va pas se casser la figure. Ce qui semble faire allusion au fait que ben, si Jésus guérit, si Jésus va en Judée pour guérir Lazare, si Jésus va en Judée pour guérir Lazare, même si on est très proche de la Passion, c'est pas encore la Passion. On est encore le jour, si vous voulez, on est encore là. La fin du jour, mais c'est encore le jour, et donc c'est une manière de rassurer les disciples, encore une fois, de leur faire sentir qu'ils contrôlent la temporalité. Et que si ce n'est pas encore tout à fait le moment pour lui de mourir, il n'y a pas à craindre. De même qu'il a échappé en se cachant de manière un peu mystérieuse d'ailleurs. Chapitre 7, vous vous souvenez, on se dit, mais c'est bizarre, il se cache d'eux, on ne sait pas très bien comment il échappe aux Juifs qui veulent le lapider. Mais donc en gros, il leur dit, mais voilà, n'ayez crainte, si j'y vais, on est encore le jour. Deuxième idée, il commence de les avertir. Les avertit, mais attention, le jour va pas durer toujours, en fait. Hein. Il y a un moment donné où le jour laisse place à la nuit. Alors, si quelqu'un marche de nuit, il trébuche. Ça ressemble à une prophétie de l'abandon, de la trahison même, du reniement de la plupart de ses disciples. Oui, si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas. De qui parle Jésus? Peut-être d'abord de lui, de dire mais je risque rien, mais peut-être aussi des disciples, parce que quand les disciples disent faut pas que tu retournes en Judée, on veut te tuer, là encore, hein, c'est peut-être un peu un double sens. C'est peut-être pour protéger Jésus, mais c'est peut-être aussi pour se protéger soi-même. Et donc c'est une manière de leur dire mais vous craignez rien. Tant que c'est le jour. En revanche, quand ce sera la nuit, c'est-à-dire quand ce sera vraiment le temps de la passion, La lumière sera plus là, et la lumière, c'est la nuit, lumière du soleil, mais évidemment, symboliquement, la lumière, c'est Jésus lui-même, il l'a dit, hein, je suis la lumière du monde. Et à ce moment-là, les disciples seront fragilisés, et donc c'est une manière aussi peut-être pour Jésus de les préparer spirituellement au fait que quand lui, Jésus, ne sera plus avec eux, quand il sera arrêté, quand il sera interrogé par le grand prêtre, par Pilate, eh ben, en fait, eux-mêmes n'auront pas la force de tenir, ils vont trébucher. Donc il y a quand même un avertissement énigmatique, peut-être que les disciples n'ont pas compris tout de suite, mais sur lequel ils pourront revenir selon ce mouvement de mémoire qui est très présent hein, dans l'évangile de Saint Jean. Sur le moment, ils ne comprirent pas, mais plus tard, hein, par exemple Jean 2, hein, la purification du temple. Après avoir prononcé ces paroles, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent donc, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ouais, donc ça nous conforte dans l'idée que ici, il y a un motif un petit peu d'incompréhension des disciples, de malentendu, comme on a très souvent d'ailleurs dans l'Évangile, rappelez-vous Nicodème, rappelez-vous la Samaritaine, enfin tout. On prend au pied de la lettre ce que dit Jésus alors qu'en fait c'est un langage spirituel qui doit être pris symboliquement. Ici, Jésus parle symboliquement de la mort comme d'un sommeil. Comme d'un sommeil, puisque de fait, il va lui redonner la vie. Donc c'est une manière de dire je suis vainqueur de la mort. Et les disciples ne comprennent pas. Mais c'est un petit peu embêtant qu'ils ne comprennent pas, justement. Ça veut dire que, après avoir passé tellement de temps avec Jésus, d'une certaine manière, ils sont pas tellement plus avancés que Nicodème, que la Samaritaine, enfin, ils ont du mal quand même à entrer totalement dans ce dessein du Père que Jésus va accomplir. D'où d'ailleurs le fait qu'ils tiendront pas le coup pendant la Passion et que, à part le disciple que Jésus aimait, ils vont tous s'en aller et même Pierre va renier et Judas va trahir, hein. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons à lui. Voilà, toujours le regard sur la fin, avec une critique implicite, afin que vous croyiez, c'est-à-dire ben, pour le moment vous ne croyez pas ou vous ne croyez pas assez. Là, ça c'est un motif qu'on a dans tous les évangiles, mais beaucoup chez Saint Marc, pour le coup, c'est pas tellement Saint Luc. Saint Luc est plutôt respectueux des disciples, enfin surtout des douze. Et Matthieu adoucit les phrases de Saint Marc, mais chez Saint Marc, il y a un vrai motif du fait que les apôtres, les douze, quasiment jusqu'au bout finalement, ne comprennent pas ce que fait Jésus. L'incompréhension des disciples, l'incompréhension des douze. Il y a un peu de ça dans ce passage-là. Afin que vous croyiez, donc mais vous n'avez pas encore vraiment la foi. Allons à lui. Alors Thomas, celui qu'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi et nous mourrons avec lui. Comment comprendre cette phrase? Une belle générosité, mais évidemment après ce que le lecteur peut se dire de l'incompréhension des disciples, on pressent que, un peu comme Pierre qui dit, mais je donnerai ma vie pour toi, et puis Jésus dit, mais en fait, tu vas donner ma vie pour moi, tu vas surtout me trahir. Donc on sent que c'est plus de la présomption que du courage ici, hein. Donc c'est intéressant de voir que dans ce chapitre qui parle principalement de la résurrection de Lazare, comme signe de la résurrection de Jésus, il y a le motif que les disciples ne sont pas à la hauteur. Les disciples n'arrivent pas à entrer dans la résurrection, ne comprennent pas vraiment ce que veut faire Jésus. Ils sont un peu à côté de la plaque. Ben, ce qui nous fait comprendre de manière inversée que quand Jésus va ressusciter et que là, pour le coup, les disciples croiront, il y aura vraiment un changement. Et ce type de remarque, enfin, ce type de petite notice, ça rend fragile, hein, l'hypothèse qu'on a parfois dans des livres un peu anticléricaux ou rationalistes ou scientistes qui disent en fait Jésus n'est pas ressuscité, c'est les disciples qui ont inventé ça pour se consoler ou pour que la supercherie continue. Enfin, Le problème, c'est que dans les évangiles, on a plutôt l'impression que les disciples ont énormément de difficultés à accueillir le langage de la résurrection. Donc, ça rend peu plausible qu'une fois que Jésus meurt, si vraiment Jésus n'était pas ressuscité pour de vrai, déjà qu'il pigeait pas quand Jésus était vivant, si Jésus meurt et ne ressuscite pas, ça rend encore plus improbable qu'ils inventent cette histoire de résurrection pour continuer à faire tourner la boutique ou par un mécanisme psychologique de consolation ou de fuite de la réalité. Donc là, non, c'est la force de témoigner de la résurrection provient de la résurrection elle-même et du don de l'Esprit Saint, mais les deux sont liés. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Alors Jésus, là, il était sans doute, il était à l'endroit où on nous avait dit, au Jourdain, là où Jean baptisait, c'était à la fin du chapitre 10. Donc c'est sans doute plus ou moins, comment dire, ça serait au sud de la Galilée, en fait, au nord de la Samarie, au sud de la Galilée, de l'autre côté du Jourdain. Bon, il faut quelques jours, 2-3 jours deux jours pour arriver. Ils ont dû marcher assez vite. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Donc oui, il aura fallu, quand il dit Lazare est mort, au verset 11, est-ce qu'il vient de mourir? Est-ce qu'il est mort il y a un jour? Enfin oui, bon, ça colle assez bien. Au niveau chronologique, ça correspond bien au temps qu'il faut pour marcher du Jourdain où il était jusqu'à Béthanie à côté de Jérusalem. 4 jours, c'est peut-être aussi intéressant de noter que dans la pensée juive, c'est le moment où l'âme va quitter définitivement, la pensée juive de l'époque, c'est le moment où l'âme va quitter définitivement le corps, c'est-à-dire. C'est dans une croyance populaire, c'est que pendant 3 jours, l'âme reste plus ou moins à côté du corps. Et puis, à partir du quatrième jour, là, la corruption du corps est telle, en fait, c'est lié à ça, hein, la corruption du corps est telle que on sait, ben voilà, l'âme est définitivement partie. Donc, ça veut dire que non seulement il est mort, mais que même il est plus que mort. Vous voyez, c'est que. C'est pas, ça peut pas être une mort apparente, ça peut pas être un coma profond. Cette durée des 4 jours est là pour nous dire qu'il y a quelque chose de définitif dans la mort selon les croyances populaires juives de l'époque, il y a quelque chose de définitif dans la mort de Lazare. Ce qui va accentuer le côté miraculeux, le côté incroyable du miracle. Voyez, par rapport à la guérison de la fille de Jaïr. Dans l'évangile de Saint Marc, elle vient de mourir. Enfin, ça fait peut-être 15 minutes ou 1 heure qu'elle est morte. C'est pas pareil. Là, vraiment, il y a cette durée significative. Alors, on nous dit, comme c'était assez proche de Jérusalem, c'est 2-3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Ça laisse penser que c'était une famille importante et que ça fait partie évidemment des devoirs religieux dans ces sociétés. On a encore un peu ça chez nous, mais beaucoup moins que dans beaucoup de cultures anciennes. C'est vraiment un devoir très important d'aller pleurer, présenter sa tristesse quand il y a eu un deuil. Et d'autant plus si c'est une famille importante, si c'est une famille de notables, évidemment, il s'agit d'aller. Quand il y a un décès, bien évidemment, on y va. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Petite notice c'est étonnant comment en quelques versets, à la fois avec Luc et Jean, puisque c'est les deux seuls évangiles qui parlent de Marthe et Marie, on arrive un peu à pressentir quelque chose de leur caractère à ces deux sœurs. Hein. Il semble que, comme on dit, Marthe est plutôt une femme active, une femme entreprenante, là où Marie semble avoir un caractère. Qu'est-ce qu'il faut dire? Peut-être plus contemplatif, bon, d'après Saint-Luc, mais enfin, ou peut-être. Voilà, elle a moins de peut-être moins d'allant, peut-être plus intérieur. Encore qu'ici, c'est pas très clair de voir laquelle des deux a le meilleur rôle, en fait, parce que peut-être que Le fait que Marthe prenne l'initiative d'aller voir Jésus, ça peut être le signe qu'elle a quand même une espèce de, même si c'est trop tard dans sa tête, Jésus n'est pas arrivé à temps, mais que elle a peut-être encore peut-être l'idée que Jésus peut faire quelque chose là où Marie, en restant dans la maison, ça peut donner le sentiment qu'elle est peut-être davantage mûrée dans son chagrin, vous voyez? Donc là, c'est le même trait de caractère qu'en Saint-Luc. Quand je dis Saint-Luc, évidemment, c'est le. Quand Jésus est chez Marthe et Marie, et puis il y a Marthe qui fait le service, et Marie qui écoute la parole de Jésus. Donc il y en a une qui bouge et l'autre qui est immobile, qui est assise. Là aussi, elle est assise. Mais ici, peut-être que. Alors que dans Luc, c'est plutôt en faveur de Marie, en tout cas, Jésus la donne en exemple à Marthe, il dit, mais elle a choisi la meilleure part. Là, c'est peut-être bien le contraire, en fait. C'est comme si Lazare avait entraîné sa sœur Marie, qui est peut-être plus sensible, qui est, voilà, dans une espèce de il l'avait entraîné dans sa propre mort, en fait. Une espèce de mort un peu psychologique, de tristesse, emmurée dans son chagrin. Mais du coup, peut-être aussi un déficit de foi par rapport à Marthe. Mais c'est pas impossible. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça résonne un peu comme un reproche. Pourquoi t'as traîné? Je t'ai fait prévenir. Mais qu'elle vient traverser, qu'elle vient dominer par une demande. Voilà. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Vous voyez, on a l'impression que Marthe, elle a encore l'espérance que Jésus peut faire quelque chose. Vous voyez. Il semble que Marthe, par comparaison avec les disciples, par exemple, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus à niveau avec la capacité de Jésus de dominer la mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, alors, bon, Jésus a bien pigé la demande implicite. Mais sa réponse est ambiguë, parce que est-ce que il parle de la résurrection à la fin des temps, auquel cas, bon, il rappelle une vérité crue par beaucoup de juifs à l'époque de Jésus, beaucoup de juifs, par les pharisiens par exemple, notamment, croyaient en la résurrection, les Esséniens aussi. Tout le monde n'y croyait pas, mais beaucoup de juifs croyaient en la résurrection des morts, et donc ça pourrait être une manière de la consoler en disant, bon, ben voilà, il est mort, mais un jour il ressuscitera. Ou ça pourrait être déjà l'annonce que lui, Jésus, va faire quelque chose. Alors Marthe, plutôt, bon, elle ne sait pas trop. Alors elle prend les choses par le minimum, peut-être. Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Donc elle manifeste qu'elle croit en cette résurrection. Et là, Jésus va essayer de travailler un petit peu sa foi, ou de la purifier, ou en tout cas de l'aider à la manifester. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, c'est déjà très très beau de dire les morts ressusciteront. Et évidemment, c'est Dieu qui ressuscite les morts, mais ici, Jésus fait. Il y a un pas très important que fait Jésus, puisqu'il se présente lui comme le garant, le signe et même l'auteur de cette résurrection attendue par les Juifs. Je suis la résurrection et la vie, hein, ces fameux énoncés en Ego Eimi. Je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Donc je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort que de dire je vais ressusciter. Je suis la résurrection, ça veut dire que il est cette puissance de vie qui fait ressusciter les morts, qui les fera ressusciter. Et peut-être qui est déjà à l'œuvre à l'instant présent. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà, ça rappelle beaucoup des choses qu'on avait au chapitre 5. Verset 26, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père possède la vie en lui-même, Ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Et puis au verset 28, il disait, L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Vous vous souvenez, j'avais dit dans ce chapitre 5, on voit cette double dimension, ces deux facettes de l'eschatologie, comme on dit chez Saint Jean, à la fois une eschatologie réalisée, c'est-à-dire une eschatologie dans le temps présent, mais sans abandonner l'eschatologie plus traditionnelle qui dit, ben, par exemple, la résurrection, le jugement aura lieu à la fin des temps, à la fin de l'histoire. En Jean 5, Jésus dit à la fois, celui qui croit en moi, dès maintenant, il est jugé, il ne passe pas en jugement. Et puis il dit, mais quand même, il a la vie, il passe de la mort à la vie, donc il y a une espèce de vie qui est déjà la vie éternelle sur cette terre, mais il y aura quand même une résurrection des morts. On va retrouver cette déclinaison des deux dimensions de l'eschatologie, donc eschatologie présente, eschatologie future, ou eschatologie réalisée, eschatologie terminale, dans ce petit dialogue avec Jésus et Marthe. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors c'est une annonce, là, pour le coup, de la résurrection plutôt terminale, la résurrection des morts. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors là, ça change, en fait. Ça devient l'eschatologie présente, puisque ne mourra jamais, c'est plus le sens d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Vous voyez, c'est exactement ça, en fait, ces deux eschatologies, c'est une manière de dire, si vous croyez en Jésus, ben, dans votre âme, on peut dire ça comme ça, mais spirituellement, vous avez déjà la plénitude de la vie divine, ce qui est quand même très fort comme affirmation. Et donc même si vous mourrez, ça n'affecte... Bon, ben, vous mourrez, mais la mort ici ne sera pas... Ça sera pas un événement qui va amoindrir votre vie spirituelle, votre vie avec Dieu. Vous êtes avec Dieu pour toujours, vous avez la vie éternelle. Ça, donc, cette eschatologie réalisée, très importante, c'est vraiment une grande... C'est vraiment propre à Saint Jean. Vous voyez comment, si on n'avait que ça, eh ben, c'est un peu... Enfin, ça pourrait prêter le flanc aux récupérations gnostiques, puisque ça serait une manière de dire, la vie éternelle, c'est de croire en Jésus, c'est d'avoir cette révélation, Jésus est venu transmettre les paroles de Dieu, il est le révélateur de Dieu, le révélateur du Père, si on croit en lui... On a cette vie spirituelle et finalement la mort corporelle, ben, c'est juste se débarrasser de ce corps matériel qui nous embête parce qu'il est signe de faiblesse, de maladie, de péché et donc ben, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes et c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il y a un facteur correctif qui est de dire mais attention, il y a aussi une résurrection des morts. C'est donc. Eschatologie réalisée, oui, on a la vie éternelle, mais pourtant on va quand même ressusciter et ressusciter dans un corps matériel. Alors là, évidemment, la résurrection de Lazare, elle est très importante pour contrer le schéma gnostique, puisque si vraiment, selon le schéma gnostique, la vie éternelle, en tant que croire en Jésus, en tant que recevoir l'illumination de l'intelligence par les paroles de Jésus, suffit à nous donner une vie éternelle, parfaite, et qu'il n'y a plus que la dernière étape, c'est de se débarrasser du corps matériel, ça serait vraiment un sale coup que Jésus ferait à Lazare de le ressusciter, en fait. Vous voyez? Alors de le ressusciter, attention, il ne va pas lui donner la résurrection terminale, il lui donne ce qu'on pourrait appeler une réanimation. Mais n'empêche que Lazare va retrouver un corps bien matériel, et il va remourir d'ailleurs. Donc cette résurrection de Lazare, c'est vraiment, à mon avis, dans l'évangile de Saint Jean, c'est la thèse la plus forte, enfin comme Jean 6 en fait, comme la parenthèse eucharistique de Jean 6, c'est vraiment une prise de position très forte contre une interprétation gnosticisante de la vie éternelle. Mais faut pas oublier pour autant la vie éternelle, vous voyez, il s'agit pas, il faut vraiment les deux. Il faut accepter que Jésus par la foi nous donne dès en ce monde la vie éternelle, c'est ce qu'il dit à Marthe, celui qui croit en moi même s'il meurt, quiconque, pardon, vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais il y aura là aussi la résurrection des corps, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Oui, c'est ça. C'est quand même très paradoxal, parce qu'il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il faudrait savoir, on meurt ou on meurt pas, enfin on vit. Alors c'est exactement ces deux plans, résurrection, eschatologie présente, eschatologie future, vie éternelle et résurrection des corps. Et c'est ça l'évangile de Saint Jean, finalement, après tous ces soubresauts qui ont agité la communauté johannique, dont on a un témoignage dans la première, dans les épîtres de Saint Jean. Hein, ce que je vous dis là, on le devine, en lise, ces perturbations gnosticisantes, on les devine à partir des épîtres de Saint Jean. Mais finalement, heureusement qu'il y a eu ça, parce que du coup, on arrive à cette théologie extrêmement complète et englobante de la vie éternelle déjà sur cette terre et de la résurrection des corps à la fin des temps. Alors, comment réagit Marthe? Alors oui, donc Jésus lui dit, crois-tu cela? Alors oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est-à-dire que elle est passée de la foi en la résurrection, cette fois, du début, c'était la résurrection à la fin des temps, que tous les Juifs, enfin que tous les Juifs, que beaucoup de Juifs partagent, les pharisiens, les Esséniens, à une foi qui est directement centrée sur le Christ. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc il y a, on pourrait dire, elle a brillamment remporté l'épreuve. Jésus a voulu un petit peu la tester. Elle lui fait une demande. Alors Jésus, il n'est pas contre faire un miracle, mais il faut pour que le miracle soit reçu, pour que ce soit un signe, il faut qu'il y ait quand même quelque chose dans l'intelligence de Marthe pour que le signe soit reçu. Visiblement, Marthe, elle a pigé les deux choses. Elle a pigé la vie éternelle, elle a pigé la résurrection et elle rapporte tout ça au Christ. Je suis la résurrection et la vie. La vie, d'abord la vie éternelle déjà sur cette terre, dès qu'on croit en moi, et la résurrection à la fin des temps. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là et il t'appelle. Alors, est-ce que Jésus lui a dit va appeler ta sœur ou est-ce que c'est Marthe qui a compris ça intuitivement? Ah, moi, j'aime bien penser ça que Marthe a, même si Jésus n'a pas formulé la demande, avec cette espèce de marche qu'elle a franchie dans l'ordre de la foi, sachant que sa sœur Marie est peut-être enfermée dans son chagrin, elle se dit mais il faut que Jésus la sorte de ça, c'est-à-dire analogiquement, qui lui donne la vie. Donc le maître est là, il t'appelle. Il appelle Marie comme il va appeler Lazare, en fait. Hein. Alors là, pour le coup, Marie, ça la réveille. À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison. Donc ça, c'est tous ces gens qui étaient venus la consoler, enfin consoler les deux sœurs, et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent, ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Hein, voilà, des lamentations rituelles, comme il y a encore aujourd'hui dans le Proche-Orient. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Je veux vérifier un truc pour pas dire de bêtises. C'est où cette histoire? Je cherche chez Saint-Luc. C'est un 10, hein, c'est ça. Ah voilà, c'est ça, Marthe et Marie. Ah voilà, c'est ça, je me trompais pas. Quand on voit Marthe et Marie chez Saint-Luc, donc au chapitre 10, donc Marthe et Marie qui reçoivent Jésus, on nous dit donc Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur. Dès que Marie est en contact avec Jésus, elle est à ses pieds. C'est rigolo, hein, chez Luc et aussi chez Jean, puisque là elle tombe à ses pieds et en 12 elle va oindre ses pieds. Bon, on peut dire, bon, bah ok, voilà, peut-être qu'elle est. Elle tombe à ses pieds, peut-être qu'elle veut exprimer, certainement, elle exprime son respect de Jésus, mais il y a peut-être plus que ça. Alors, il faut que j'aille voir, évidemment, j'aurais dû préparer ça, parce que ça me vient comme ça. Mais en fait, dans cette histoire des pieds, il y a une reprise d'un motif qu'on trouve dans Judith. Faut que je trouve ça. Où est-ce que c'est cette histoire-là? Parce qu'en plus, c'est pas la Bible. J'ai pas l'ordre catholique. Là, j'ai la tobe, donc c'est l'ordre des livres. C'est les livres protestants. C'est l'ordre protestant. C'est Ruth, voilà. 1585. C'est le livre de Ruth, 1585. Hop. Ah voilà. Bon, vous connaissez l'histoire de Ruth, hein. Belle histoire, hein. Il y a ce mariage arrangé par Noémie, la belle-mère astucieuse de Ruth, qui se débrouille pour que Ruth conquiert le cœur de Boaz. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça va se faire, c'est que Boaz, à un moment donné, vient moissonner un de ses champs, et puis il est fatigué, il va se coucher, il va dormir, donc il dort dehors sur son champ, et alors là, Ruth vient furtivement, découvre ses pieds et se couche. Elle se met à ses pieds, et alors il se réveille au milieu de la nuit, et il voit qu'une femme est couchée à ses pieds. Alors il lui dit, mais qui es-tu? Alors il dit, c'est Ruth, ta servante, et puis il lui dit, épouse ta servante. Voilà, c'est assez direct, hein. Car tu es racheteur. Alors bon, ça fait allusion à la question de la procédure quand on est de la même famille, pour que les biens ne soient pas dispersés, on doit d'abord épouser les gens de sa famille. Enfin bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est certain, c'est qu'une femme qui se met au pied d'un homme, dans cette pensée biblique, il y a une dimension sponsale, une dimension conjugale en fait. Et ça sera encore plus flagrant au chapitre 12. Donc en fait, Marie, sœur de Marthe, face à Jésus, elle se met un petit peu comme la Samaritaine, ou un petit peu comme Marie à Cana, elle se met en position conjugale. Plus largement d'ailleurs, Jésus dans l'évangile de Saint Jean, c'est très très frappant. Chaque fois qu'il rencontre une femme, il se met en position conjugale ou assimilée, parce que avec la femme adultère, c'est plutôt la position de celui avec laquelle la femme adultère a fauté. Mais enfin, ça reste quand même dans une logique, on va dire, conjugale ou de type conjugal. Donc c'est peut-être pas anodin non plus, cette histoire de Marie, qui, quand elle voit Jésus, se met à ses pieds, tombe à ses pieds. Alors, je reviens chez Saint Jean. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu mon verset. Bon, voilà, verset 32. Alors, elle lui dit un peu la même chose que Marthe. Hein. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, visiblement, les deux sœurs ont quand même espéré beaucoup que Jésus viendrait avant la mort de Lazare. « Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. » Alors en fait, le verbe, c'est un verbe plutôt qui désigne la colère. On ne sait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est une colère contre Marc? Parce qu'il commence à en avoir marre qu'on lui dise « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que c'est une colère contre les Juifs dont il estime qu'ils sont là un peu de manière extérieure et... voilà, simplement pour satisfaire à une règle sociale sans qu'il y ait une vraie compassion. C'est pas impossible, on n'a pas tellement d'éléments dans le texte donc, qui vont dans ce sens-là. Est-ce que c'est une colère? Alors ça, c'est J'aurais tendance à le croire, mais c'est vrai que c'est difficile à interpréter, hein. Ça serait peut-être une colère contre la mort, contre le mal qui a acquis cette puissance sur les hommes et qui les tient prisonniers par la mort. Ça pourrait être ça. Donc c'est un peu que, voilà, visiblement, il a une forte émotion, mais c'est pas exactement, c'est pas de la tristesse, c'est pas le verbe grec, c'est plutôt de la colère, hein, donc pas facile d'interpréter. Il dit, où l'avez-vous déposé? Ils répondirent, Seigneur, viens voir. Alors Jésus pleura. Étonnant, hein, le Jésus de Saint Jean, c'est à la fois un Jésus, c'est une christologie de roche. Peut-être qu'on en a une parce que je commence à plus rien voir. Il y a 12 heures de jour, mais il faut pas qu'on trébuche la nuit. Alors, je sais pas, attendez, il y a peut-être un interrupteur ici, je sais pas ce que ça allume. On ne sait jamais ce que ça allume dans cette salle. Ah ben rien. Ah si, ça y est. Alors, ça devrait y avoir des celles-là, est-ce qu'on les allume peut-être là? Ça me convient. Ah voilà, ah, formidable. Merci beaucoup. Oui, je disais, Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, c'est une christologie haute, donc il est Dieu, hein, ça nous est dit quasiment à toutes les pages. Et par ailleurs, on a vu qu'il avait faim, il pleure, enfin, c'est un Jésus aussi qui a des... Il a vraiment une chair humaine, hein, il a des émotions humaines. Alors ça étonne même les Juifs, voyez comme ils l'aimaient. Alors ça serait peut-être effectivement le seul petit argument, mais ça serait de l'ironie, mais peut-être là c'est pousser le bouchon trop loin, c'est qu'en fait les Juifs sont venus pour pleurer rituellement. Alors le fait qu'ils font cette remarque-là, peut-être ils disent, ah bah oui, lui c'est pas... ça vient vraiment du cœur, quoi. Il est pas, c'est pas des salamalecs. Vous voyez, donc apparemment ça les frappe que Jésus, c'est pas simplement des conventions sociales quand il pleure à ce moment-là. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Vous voyez, alors ça c'est intéressant. Ça veut dire que dans ce groupe-là, il y a déjà une espèce d'hostilité à Jésus, de défiance vis-à-vis de Jésus, une mise à l'épreuve. Il n'a pas été capable. Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement. Comme ça vient après cette remarque-là, alors c'est le même verbe qu'avant, du coup, mais là c'est plus facile de le comprendre. On pourrait dire c'est à cause de cette défiance, qui fait un peu penser au murmure d'Israël au désert, hein, quand, la défiance, la mise à l'épreuve de Dieu. Donc là, Jésus, y a cette colère intérieure. Et il s'enfuit au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Tout à fait comme celle où Jésus lui-même va être déposé après sa mort. Jésus dit alors, enlevez cette pierre. Bon, alors évidemment, c'est une demande complètement inattendue. Marthe, la sœur du défunt, elle a toujours le sens pratique, Marthe. Elle lui dit, Seigneur, c'est pas une très bonne idée, il doit déjà sentir. Bon, effectivement, c'est bon, pas assez traité. Bon, enfin, c'est vrai que c'est épouvantable, hein, l'odeur d'un cadavre. Donc, il y a en effet 4 jours. Hein, rappelez-vous, c'est cette durée des 4 jours. Mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, il ne lui a pas dit texto ça, mais c'est sans doute une manière de résumer le petit échange qu'il a eu avec elle tout à l'heure. On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux, donc ce qui est un geste typique de la prière, hein, on lève les yeux parce que dans la symbolique. Biblique, Dieu est au ciel. Là, il y a un psaume qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Les montagnes, mais même au-delà des montagnes, c'est le ciel lui-même. Et Jésus va prier. Alors, je crois qu'on avait ça au chapitre 6, hein, je me trompe. Bon, d'un coup, j'ai un doute. Je sais plus si c'est chez Marc. Le fait de lever. C'est peut-être chez Marc. C'est pas très important, mais je Vérifie. Non, c'est chez Saint-Marc, c'est pas chez. Chez Saint-Marc, lors de la première multiplication des pains, quand Jésus rend grâce, il lève les yeux au ciel. On a encore ça dans la prière eucharistique numéro 1 d'ailleurs. Et dans le missel, c'est dit que, donc le canon romain, dans le missel, c'est dit que le prêtre doit lever les yeux au ciel à ce moment-là. Peut-être vous avez remarqué. C'est pas très pratique d'ailleurs, parce que du coup, on perd le fil du. Par le fil du missel. Alors, comment Jésus va prier? C'est ça. Alors là, ça, c'est encore une surprise que Jésus, que l'évangile de Saint Jean nous réserve. On s'attendrait, bon, là, on se dit, ok, on a compris quand même qu'il va faire, il va ressusciter Lazare. On pourrait s'attendre à ce que ils disent, Seigneur, ressuscite Lazare. Et en fait, c'est pas exact, c'est pas tout à fait ça. C'est une action de grâce à propos d'un acte de Dieu qui a déjà été posé. Père, je te rends grâce. Oui, c'est quand même étonnant. J'imagine que les gens là, ils étaient surpris. Ils s'attendaient à une supplication, et ce qui vient, c'est une action de grâce. De ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Il y a cette prière de Jésus. Évidemment, c'est toujours émouvant, hein, d'être auditeur, hein, de la prière de Jésus. On sent que quand on nous dit, il va dans la montagne pour prier, on se dit, bon, c'est vraiment l'intimité spirituelle de Jésus. Comment Jésus priait? Ici, on a accès à une prière de Jésus. Pas très longue, mais enfin quand même, en Jean 17, on aura une très longue prière de Jésus. Et cette prière, c'est une action de grâce. Voilà, Jésus était. Enfin, est-ce qu'il a prié pour que Lazare ressuscite? C'est possible. Mais dans la mesure où il vient de dire, je suis la résurrection, alors il est la résurrection, mais en dépendance du Père, c'est évident, mais. Peut-être qu'ici, il faut comprendre que le rapport, enfin la prière humaine qui est la plus expressive, la prière qui est la plus expressive du lien qu'il y a entre le Fils et le Père, plus que la demande, c'est l'action de grâce. Certes, il a exaucé, donc Jésus a demandé, mais c'est l'action de grâce. Ça nous fait comprendre aussi que Jésus vraiment veut, c'est toujours la gloire, hein, Jésus est là comme le révélateur du Père. Et c'est pour ça qu'il dit, mais j'ai parlé pour que cette foule croie que tu m'as envoyé. Ce motif qu'on avait déjà au verset 15, quand Jésus disait à ses disciples, je suis heureux de ne pas avoir été sur place pour que vous croyiez. Celui qui croit ne meurt pas, et si, même s'il meurt, il vivra. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est un peu, alors là encore, tout est symbolique dans Saint Jean, mais. Pourquoi crier d'une voix forte? Voilà, ça c'est, en fait, c'est un thème apocalyptique parce que c'est les anges révélateurs dans les apocalypses crient. En fait, ça manifeste, c'est pas, c'est parce que la force, le volume sonore de la voix transmet aussi la puissance de la parole divine. Donc Lazare sort. Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes. Alors oui, ça ne devait pas être très pratique pour marcher, mais enfin bon, ça fait partie du miracle. Et le village enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. encore, hein, on peut interpréter pourquoi est-ce que ça n'a pas été sur un modèle où Lazare, tant qu'à faire un miracle, autant le faire jusqu'au bout, hein. Lazare, hop, traverse les bandelettes et puis sort tout content. Pourquoi est-ce qu'il sort avec ses bandelettes, en fait? De telle sorte que, ben, même si le miracle a eu lieu, la résurrection a eu lieu, ou la réanimation, il y a encore un geste à faire. Parce que Jésus demande aux gens et que Jésus fait pas lui-même, il dit déliez-le, c'est-à-dire libérez-le, vous voyez. Comme si cette sortie de la mort, enfin, la libération de la mort, c'est Jésus qui fait le principal, mais il y a un petit bout de quelque chose qui est fait aussi par les gens qui vont délier Lazare. Alors dans la tradition de l'Église, je ne sais pas si c'est déjà dans l'intention de l'Évangile, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir. Les pères de l'Église ont interprété ce verset comme symbolique du pardon des péchés. Voilà, délier-le, en fait, on est pris dans les liens du péché. Et comme en Jean 20, dans la première apparition de Jésus à ses disciples, Jésus dit: ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En fait, les pères de l'Église ont fait le rapport entre ces deux passages, la résurrection de Lazare et Jean 20. Et c'est même comme ça qu'on a dit, bah, dans le sacrement de réconciliation, il y a deux dimensions. Il y a la réconciliation avec Dieu, qui dans l'Évangile est symbolisée par le fait, bon, en gros, c'est quand même Jésus, ou le Père, enfin, ou les deux, ou Dieu, qui fait le principal du boulot. Mais il y a aussi la réconciliation avec l'Église. Je sais pas si vous saviez ça, mais quand on va se confesser, il y a un double pardon qui nous est donné. On est réconcilié avec Dieu et réconcilié avec l'Église. Voilà, donc il voyait un peu ces deux dimensions. Alors, je suis pas certain que Saint Jean voyait déjà ça, mais je trouve que c'est assez beau comme interprétation. Déliez-le et laissez-le aller. Ben oui, quand on est dans le prisonnier du péché, c'est comme si on était mort au tombeau. Et donc c'est une nouvelle vie, en fait, quand on est délié du péché. Peut-être, alors là pour le coup c'est plus sûr que que ça soit dans l'intention de l'évangéliste, c'est que ça permet aussi de comprendre la différence qualitative entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus. Puisque rappelez-vous, la résurrection de Jésus, quand il y a Saint-Pierre et le disciple qui font la course, on nous dit qu'il y avait les bandelettes et les linges à part et que le disciple que Jésus aimait vit et il crut. En fait, il vit, mais pas Jésus ressuscité, il est. C'est-à-dire que c'est comme si la vision de ces bandelettes, de ce linge, il avait compris quelque chose. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux, quoi. Pourquoi est-ce que cette vision des bandelettes dans le tombeau vide lui permet de comprendre que c'est pas qu'on a volé le corps, c'est pas, mais que c'est vraiment Jésus ressuscité? Ben, peut-être bien par distinction, par rappel en fait de Lazare, c'est-à-dire il se dit, mais si Jésus a ressuscité Lazare, il ne peut pas être prisonnier de la mort. Et donc l'insistance, comme Jésus lui-même s'est débrouillé pour que les bandelettes jouent un rôle en fait, il peut dire à la fois Jésus ne peut pas être prisonnier de la mort, et c'est une résurrection d'un genre nouveau, c'est pas une réanimation. Là pour le coup, c'est une résurrection qualitativement différente. Alors on pourrait même aller encore un cran plus loin, même si moi je résiste un peu à ça. Ça serait de dire, mais comme on nous précise que Jésus aimait Lazare, c'est dire, ben en fait, c'était Lazare le disciple que Jésus aimait. Alors là, effectivement, on peut dire, bon, ben, en voyant les bandelettes, bon, je ne sais pas trop comment ça s'est passé dans sa tête quand il est sorti du tombeau, mais on peut dire, s'il y en a un qui doit bien comprendre que Jésus ne peut pas rester prisonnier de la mort, c'est bien Lazare lui-même. Avec cette histoire de bandelettes, c'est vrai que ça irait un petit peu dans ce sens. Pas impossible en fait, hein, d'ailleurs. Hein, ce qu'il y a, c'est que moi j'aime bien mon idée. Alors après tout, on ne sait pas, Lazare peut être d'une famille sacerdotale, mais j'aime bien l'idée que Lazare, enfin que le disciple que Jésus aimait, et comme il est connu du grand prêtre, est-ce qu'il est connu simplement parce que c'est un notable? Alors ça collerait très bien avec Lazare, parce qu'on a vu que c'est sans doute une famille de notables, ou est-ce que il est connu du grand prêtre parce qu'il a pas, il fait le même boulot, il est prêtre. Si on s'en tient qu'à l'évangile, c'est vrai qu'on pourrait aller du côté de Lazare. Il y a un témoignage externe dont je vous avais déjà parlé, je crois que c'est le témoignage d'un évêque d'Éphèse au 3e siècle qui s'appelle Hippocrate et qui nous dit que le disciple que Jésus aimait était d'une famille non seulement de prêtres, mais de grands prêtres. Bon, témoignage externe. Enfin bon, en tout cas, c'est intéressant. Tous les détails sont signifiants hein, dans ce passage. Alors, comment ça se termine? Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Bon, plutôt chouette. Mais d'autres, ah voilà, il y a toujours. Il y en a toujours qui. Voilà, on a vu ce thème de la division en fait. Hein, jamais Jésus arrive à. Enfin, jamais Israël arrive collectivement et de manière unifiée à croire en Jésus. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Ça rappelle quoi ça? Bravo, exactement, le paralytique. Donc, vu comment ça s'est terminé pour le paralytique, on se dit, bon ben voilà, c'est des rapports de paquets, c'est plutôt des mauvais ceux-là, c'est plutôt des méchants. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent: Que faisons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui et les Romains interviendront. Ils détruiront notre saint lieu et notre nation. Ironie johannique, trois ou quatre fois. Tous croiront en lui. Bah oui, l'évangile va se répandre comme une traînée de poudre. À la fin du premier siècle, c'est déjà hallucinant le nombre de chrétiens qu'il y a. C'est pas tous les hommes, mais enfin tous, ils ont bien. Donc, les Romains interviendront et ils détruiront notre saint lieu, bah, exactement oui, ce qui s'est passé en 70. Et notre nation, alors là, ça c'est plus polémique, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'Israël qui ne reconnaît pas son Messie hein? Rappelons-nous au chapitre 7 et 8, hein, l'idée qui était donnée, c'était qu'on ne peut pas être, et encore au chapitre 9 d'ailleurs, c'est que. La seule manière d'être disciple de Moïse après Jésus, c'est d'être disciple de Jésus. On ne peut pas être disciple de Moïse sans être disciple de Jésus. Donc, pour le quatrième évangile, un judaïsme qui n'a pas reconnu que Jésus est le Messie, d'une certaine manière, la nation, elle est détruite spirituellement. Évidemment, elle peut encore exister culturellement. Bah, d'ailleurs, le judaïsme existe encore jusqu'à nos jours, évidemment. Mais, vous voyez, donc il y a une espèce de prophétie, mais faite à son corps défendant, évidemment. Tout ce que craignent le conseil, tout ce qu'ils vont faire pour l'éviter, ben, plus ils vont le faire pour l'éviter, plus ça va arriver. C'est presque du tragique, hein. C'est comme Oedipe, il fait tout ce qu'il peut pour pas tuer son père et coucher avec sa mère, mais tout ce qu'il fait pour éviter de. Ben, il va faire exactement ce qu'il veut pas faire. Il y a un petit peu de ça, une ironie johannique, on a déjà vu ça plein de fois. L'un d'entre eux, Caïphe, il était grand prêtre en cette année-là, dit: Vous n'y comprenez rien, et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple. Et que la nation ne périsse pas tout entière. Alors, de nouveau de l'ironie, c'est d'abord un calcul cynique, peu importe la justice, c'est ça en fait, c'est de la réelle politique, ça c'est raison d'État en fait. Plutôt que de s'interroger, est-ce que Jésus, il a quand même fait des signes, c'est quand même impressionnant, est-ce que vraiment il vient de Dieu ou pas de Dieu, est-ce que. Vous voyez, on abandonne toute considération de justice, c'était d'ailleurs ce que Nicodème leur avait reproché en Jean 8, hein. Il avait dit, mais est-ce que c'est comme. C'est pas comme ça que. Là, on est vraiment de la réelle politique, raison d'État. Intérêt suprême, justement pour éviter que les Romains détruisent notre peuple, parce que c'est un agitateur messianique et que les Romains ont la trouille de ces agitations messianiques, donc il faut qu'on s'en débarrasse avant que cette histoire de Jésus fasse trop de vagues. Et ça, le calcul du grand prêtre. Donc c'est votre avant. Tant pis, il y a un type qui va mourir, même s'il est innocent, à la limite, Caïphe. On pourrait presque dire que, enfin, il s'en moque en fait, qu'il soit coupable et innocent, il veut juste que la nation ne périsse pas. Mais à un deuxième niveau, à son corps défendant, eh ben, il prophétise le fait que la mort de Jésus est salutaire, parce que ben, parmi les Juifs, il y en a quand même certains qui vont croire. Vous voyez, les deux prophéties se complètent. Il y en a une qui nous dit, ils vont détruire notre nation, et de fait, quand même massivement. Israël va refuser de croire en Jésus, mais enfin il y a quand même aussi bien des Juifs qui sont devenus chrétiens, à commencer par les 12, les disciples, le disciple que Jésus aimait, Marie, enfin voilà, s'il n'y avait pas eu des Juifs devenus chrétiens, il n'y aurait jamais eu Saint Paul qui était juif. Enfin, ça c'est donc En fait, il y a quelque chose de la nation tout entière qui ne va pas périr. Donc ça vient atténuer la première prophétie. Et alors Saint Jean, l'évangéliste, commente, ce n'est pas de lui-même qui prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation. Vous voyez, donc double sens théologique. Et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Très important parce que ça, c'est vraiment clairement l'ouverture aux païens. Jésus n'est pas mort simplement pour Israël. Il est mort d'abord pour Israël, c'est le Messie d'Israël, mais il est même mort pour rassembler en un seul peuple, en une seule église, les enfants de Dieu, donc qui sont dispersés, comme d'ailleurs Israël en a fait l'amère expérience au moment de l'exil à Babylone. Vous avez ça dans le livre d'Ézéchiel. C'est ce jour-là donc qu'ils décidèrent de le faire périr. Bon, en fait, c'était déjà avant, hein, mais on insiste ici parce que il y a une espèce de paradoxe à voir que quand Jésus, c'est la résurrection de Jésus, de Lazare, qui convainc les grands prêtres que Jésus doit mourir. Mais par ironie, quand Jésus meurt, manifestant la gloire de Dieu, donnant l'esprit, de toute façon, il va ressusciter et il va être la résurrection. Donc ça va être exactement le contraire de ce que les grands prêtres anticipaient. Là, on peut retenir ça, différence entre Jésus et les synoptiques. Pour les synoptiques, ce qui décide les grands prêtres à se débarrasser de Jésus, c'est la purification du temple que Jésus fait quand il arrive à Jérusalem. Signe prophétique, et là, évidemment, on sent que par quelle autorité fais-tu cela? On sent que c'est toujours la crainte des troubles politiques. Chez Saint Jean, c'est pas ça, puisque la purification du temple a lieu au tout début, donc. C'est quelque chose de, en un sens, plus profond. En fait, on ne supporte pas que Jésus donne la vie, finalement. Il y a quelque chose d'un refus de la résurrection elle-même. Mais du coup, ça va provoquer la mort. Mais la mort de Jésus, c'est quasi identiquement la résurrection de Jésus chez Saint Jean. Alors, de son côté, Jésus s'abstint désormais d'aller et de venir ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans la région proche du désert, dans une ville nommée Éphraïm. On ne sait pas très bien où c'est, mais enfin, bon, c'est sans doute pas très loin, où il séjourna avec ses disciples. Proche du désert, c'est le désert de Juda, parce que Jésus fait ce qu'on fait, tout le monde a fait à toutes les époques de l'histoire d'Israël, y compris David à un moment donné où il fuyait devant Shaul. On est proche du désert, donc quand on veut vous attraper, on voit les gens venir et hop, on part dans le désert, il y a plein de grottes, plein de cachettes, c'est impossible de vous retrouver. À toutes les époques, c'est ce que font les gens, encore même aujourd'hui. Il y a des contrebandiers qui vont se cacher encore dans le désert de Juda, parce qu'il y a plein de cachettes. Cependant, la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier, pour fêter la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple où il se tenait, ils se disaient entre eux, qu'en pensez-vous? Jamais il ne viendra à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. Donc là, on est en train de basculer dans les jours de la Passion. Mais il y a encore le chapitre 12. Que je vais lire assez vite. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare, donc c'est toujours le même endroit qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, bon, comme chez Saint-Luc, hein, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, donc c'est en gros 330 grammes. C'est une quantité astronomique, ça coûte très cher. Donc c'est il y a quelque chose de déraisonnable. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Geste très étonnant et même choquant. Pourquoi? Parce que les femmes doivent garder, les femmes ne découvrent leurs cheveux que devant leur mari. Plus le côté des pieds, donc vous voyez là, il y a très fort la symbolique sponsale. Marie se comporte comme l'épouse de Jésus. Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Alors dans les autres évangiles, on raconte cette onction. Il y a aussi une. Les disciples ne sont pas contents, les apôtres, les douze, mais on ne dit pas qui c'est. Là, on dit c'est Judas. Bon, évidemment, c'est tout trouvé pour qu'il ait le mauvais rôle. Il parla ainsi, donc il eut souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors, laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. J'ai pas le temps de trop commenter, mais c'est vraiment, je trouve, un très bel épisode de l'Évangile, alors aussi chez les synoptiques, peut-être encore plus chez Saint Jean. Parce que je trouve que ça nous fait vraiment entrer dans une dimension très importante de la passion, qui est la dimension de la gratuité. Qui, pour un certain type de personne, ou pour une certaine mentalité, est synonyme de folie. Y compris une folie qui peut se justifier pour des raisons humanistes, en fait. On aurait pu prendre cet argent et le donner aux pauvres. Et là, l'Évangile nous dit, mais méfiez-vous des gens qui sont incapables d'entrer dans cette folie de l'amour, en fait, hein, pour parler comme saint Paul. Même s'ils utilisent des bons arguments, des arguments humanitaires, peut-être bien que, en fait, il y a vraiment un blocage spirituel profond. Alors, tout le monde n'est pas voleur, là, avec Judas, c'est présenté de manière presque caricaturale, mais ça veut dire que c'est très bien d'avoir des motifs humanistes, mais si vous n'êtes pas capable d'entrer dans cette logique qui fait que, bah, comme Mère Teresa, hein, elle disait, les sœurs des missionnaires de la charité, elles vivent dans une pauvreté absolue, une religieuse de la charité, tout ce qu'elle possède doit tenir dans un seau. Parce que du jour au lendemain, on peut l'envoyer à l'autre bout de la planète, dans une autre communauté. Elles ont rien, les missionnaires de la charité, mais vraiment rien. La seule richesse qu'elles ont, c'est la richesse liturgique du calice. Il y a un calice en or et Mère Teresa était toujours très attentive à ce qu'il y ait des beaux objets liturgiques. Et quand on lui reprochait, je crois qu'elle citait cet évangile en fait. Hein, vous voyez, c'est très bien vu. C'est-à-dire que il y a un moment donné où vendre le calice en or, même pour le donner aux pauvres, et Dieu sait que Mère Teresa et ses sœurs religieuses s'occupaient des pauvres, en fait, le problème c'est que ça vous fait sortir de cette gratuité folle de l'amour de Jésus. Que là, en fait, qui correspond à ça, qui a pigé et qui est à niveau, en fait, c'est Marie. D'où la logique sponsale, vous voyez. Qui, à mon avis, exactement comme pour la Samaritaine, et comme ça à Cana, et comme ça sera, alors là, pour le coup, écrit noir sur blanc, Jean 19, c'est une logique de l'Église. Ça, c'est un thème, alors bon, c'est très joannique, je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort, ça, de la tête de Saint Jean, mais. On a l'impression que chez Saint Jean, il y a, je vous dis, Jésus, dès qu'il voit une femme disciple, il se met en position sponsale avec elle. Enfin, il y a toujours une logique d'épousailles et en même temps une logique ecclésiale. Exactement par l'idée que seule l'Église, comment dire, est capable de, en entrant dans cette surabondance folle de la gratuité de l'amour du Christ, ben de le recevoir et de le transmettre. Donc c'est vraiment un très très bel. Enfin, bon. Très, à la fois touchant, mais plus c'est touchant, mais aussi très important théologiquement ce passage. Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Donc, un petit peu de curiosité. Les grands prêtres, dès lors, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Alors, on ne nous raconte pas la mort de Lazare dans l'Évangile. Par contre, là, il y a un motif qui sera important dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le motif que ben, quand on est disciple du Christ, on meurt comme lui, en fait. Hein. Lazare, on ne nous raconte pas. Mais de même que ceux qui ont voulu faire mourir Jésus voudront faire mourir Lazare, et en fait, tous ceux qui recueilleront la résurrection de Jésus. Donc il y a un peu un motif très discret. Mais en gros, de la persécution, c'est normal que les chrétiens soient persécutés. C'est le motif. Des chrétiens pas persécutés, c'est inquiétant. Alors, on raconte pas la mort de Lazare, mais il y a un truc un peu bizarre chez Saint-Luc. Encore une fois, Saint-Luc et Saint-Jean, il y a des connexions très étranges. Alors, évidemment, je vais pas la retrouver. Parabole. Où qu'elle est, où qu'elle est, où qu'elle est. Je cherche la parabole du pauvre Lazare. Où c'est ça? Chez Saint Luc.
16.
Luc 16, merci. On dit qu'il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin. Bon, des riches. Il y en a plusieurs. Mais enfin, dans le contexte de l'époque, l'homme riche, c'est le prêtre. Qui, il se trouve, le grand prêtre. Et la pourpre, ça fait partie des couleurs des habits sacerdotaux. Un pauvre du nom de Lazare. Alors, est-ce que Lazare est pauvre vraiment matériellement? On a plus l'impression dans l'évangile de Saint-Luc que c'est une famille de notables. Je pense plutôt qu'ils avaient du pognon, ce genre-là. Mais... Alors, vous connaissez l'histoire. Il gisait couvert d'ulcères, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bon, le pauvre meurt. On connaissait l'histoire d'Abraham Lazare. Bon, puis il y a le riche qui meurt et il dit... Alors il dit à Abraham, il dit à Lazare d'aller dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Alors il me semble bien qu'effectivement la famille sacerdotale de Caïphe à l'époque, ils avaient 5 frères, enfin vous étiez 6. Pour qu'ils les avertissent et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture. Bon, le riche, il continue de voir Lazare comme un larbin, il dit à Abraham. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et l'autre reprit, Abraham... Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. Et Abraham lui dit, mais non, s'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Ça colle pas mal avec l'histoire de Lazare dans l'évangile de Saint Jean. Il est ressuscité des morts, mais les grands prêtres n'ont pas été convaincus. Ils n'ont tellement pas été convaincus qu'ils ont décidé de tuer Jésus et de tuer Lazare. Alors, cette parabole, c'est étonnant, alors je ne vais pas aller plus loin, mais c'est une parabole très étrange, parce que c'est une parabole avec des noms propres. C'est la seule parabole des évangiles où il y a des noms propres. Normalement, il n'y a jamais de noms propres. Une parabole, c'est jamais un homme appelé Robert, à la voir... Non, c'est toujours un homme, un roi, un fils, un pauvre... Et là, il y a Abraham, ce qui est déjà un peu étrange, et puis il y a ce gars-là, Lazare, c'est un peu curieux. Tiens, je suis en train de réfléchir à un truc. Lazare, c'est Éléazar, en hébreu. C'est un nom sacerdotal, parce que c'est un des frères d'Aaron. Un des fils d'Aaron, pardon. Et donc, c'est un nom traditionnel chez les prêtres. Bon, ben, peut-être, du coup, effectivement, j'en viens à me dire que peut-être bien que Lazare, c'est le disciple que Jésus aimait. Je me convainc moi-même, là, d'un seul coup. Non, mais ça, c'est vrai. Et les hasards, ça veut dire Dieu est ma force. Elle, c'est Dieu. Et hasard, il y a une belle gutturale. Ein, Zain, Resh. C'est Dieu est... Dieu est ma force, Dieu est mon aide. Bon, bref, toujours est-il que... il y a un destin sombre qui semble peser aussi sur Lazare. Le lendemain, alors, arrivée messianique à Jérusalem, traitée un petit peu différemment des évangiles synoptiques, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Alors, les branches de palmier, c'est que chez Saint Jean, et en plus, vous voyez, chez Saint Jean, les gens, ils sont déjà à Jérusalem, ils apprennent que Jésus arrive de Béthanie, donc c'est juste à côté, c'est par le mont des Oliviers, et ils viennent à sa rencontre. Chez les synoptiques, l'entrée messianique, c'est Jésus accompagné de ses disciples, qui vient de Jéricho d'ailleurs. Enfin bon, quand vous venez de Jéricho, vous passez à Béthanie, donc ça... Mais c'est pas le même motif, en fait. Dans un cas, c'est les disciples de Jésus qu'il loue comme le Messie. Là, c'est plutôt l'attente d'une population dont on peut douter des motifs. En fait, ils croient en Jésus, mais on a appris maintenant que la foi en Jésus, elle peut être assez ambiguë. Rappelez-vous Jean 6, rappelez-vous la fin de Jean 2, ils croyaient en Jésus à cause des signes, mais Jésus lui croyait pas en eux. Donc... Alors, ils criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient », donc c'est le psaume 118, « Le roi d'Israël ». Alors, les branches de palmiers, ça fait allusion à la fête des tentes. Et la fête des tentes, elle a une double signification. C'est à la fois en mémoire de quand Israël était au désert et dormait sous la tente, avait une existence nomade, mais ils étaient protégés par Dieu. Mais c'est aussi c'est aussi une fête de renouvellement, de dédicace du temple. Sans doute à cause du Saint des Saints qui est comme, vu comme l'analogue de la tente du désert. Quand les Maccabées, par exemple, vont réinstaurer le culte, purifier le culte après la profanation par Antiochus Épiphane en 162 avant Jésus-Christ, on balance des feuilles de palmier. Donc c'est l'idée que c'est pour la fête des tentes. Et le roi d'Israël, ben oui, parce que rappelez-vous, qui a construit le temple? Ce n'est pas David. David s'est contenté de rassembler les matériaux, d'après le livre des Chroniques. C'est Salomon. Mais le roi, normalement, a une prérogative. C'est lui qui est responsable. Il n'est pas prêtre, mais il est responsable du bon fonctionnement du culte. Alors tout ça nous fait penser que ces gens-là, en fait, viennent accueillir Jésus comme le roi Messie. Mais quel Messie? Qu'est-ce qu'ils attendent du roi? Quand c'est les disciples, on peut dire, bon ben voilà, ils ont fini par piger que Jésus est un roi, pas exactement comme un roi du monde. Ici, c'est beaucoup plus ambigu puisque c'est des gens qui viennent de la ville. D'ailleurs, rappelez-vous, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, à propos du mot parousie, la parousie, ça fait, qui veut dire présence en grec, c'est cette espèce de rite politique quand les souverains, notamment chez les souverains. Dans le monde hellénistique, pour montrer qu'ils possèdent une ville, qu'ils ont autorité sur une ville, qui normalement est protégée par un rempart, les autorités de la ville ouvrent le rempart, donc acceptent ils veulent pas se défendre contre le roi, donc c'est pas un roi. Un roi, il va dans une ville ou bien pour la conquérir, ou bien pour prendre autorité dessus. Alors si on ouvre les portes, c'est que c'est pas pour qu'il va pas faire le siège, c'est que la ville lui appartient, et la foule, les notables, la foule, monsieur le maire, le conseil municipal, les autorités, la fanfare républicaine, enfin tout le monde s'en va pour souhaiter la bienvenue au roi. Donc il y a cette espèce de rencontre d'un cortège royal et d'un cortège de la cité. Ben, ça ressemble vraiment beaucoup à ça, hein. Mais alors ça serait une parousie politique, là, justement, du coup, hein. Il semble bien qu'ici, cet accueil reprennent le désir, enfin pas juste, qu'on avait déjà dans le chapitre 6 de Saint Jean, de faire roi Jésus, mais uniquement pour des considérations terrestres. Après avoir nourri les foules, on veut le faire roi. Et Jésus dit, mais vous n'avez rien pigé, c'est pas travailler pour la nourriture, travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais travaillez aux œuvres de Dieu. Ce qui veut dire que le geste qui vient après serait une réponse de Jésus aux foules pour leur faire sentir leur erreur. Trouvant un ânon, alors là on n'a pas du tout le côté qu'on a chez les synoptiques, il envoie quelqu'un, le Seigneur, où il avait combiné d'avance, mais on a l'impression que Jésus regarde, et puis pof, heureusement il y a un ânon. Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit, ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d'une ânesse. Alors ça c'est Zacharie 9. Alors, je vais vous lire un petit peu plus, parce que quand on cite, en général, on a en mémoire plus que le seul verset. Alors, tressaille d'allégresse, donc c'est Zacharie 9, verset 9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux. Ah, bah tiens, ça, on peut dire, ça colle très bien. Les gens venaient avec les palmes et tout ça. Ils accueillaient Jésus comme, en fait, 190 ans avant, les Juifs avaient accueilli les Maccabées qui avaient viré les Romains, qui avaient viré les Grecs, pour reprendre possession du temple. Mais la suite du verset, c'est « Voici que ton roi donc vient à toi, humble et monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix pour les nations. » Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Donc, vous voyez, ce verset-là, il prend complètement à rebours toute velléité, toute tentation messianisante politique et guerrière pour virer les Romains hors de Jérusalem et hors de la Terre Sainte. Puisque l'oracle, il nous dit exactement le contraire. Il nous dit, il ne vient pas sur un cheval qui est l'animal des soldats, mais sur un âne. Et sur un âne, y a rien, c'est pas, ça fait peur à personne, un âne. Hein. C'est déjà parce que s'il ne veut pas bouger, il ne bouge pas. Donc on ne peut rien faire avec un âne. Hein. Enfin, il paraît que c'est très dur à la tâche, les ânes. Ça peut porter très longtemps des charges lourdes. Mais donc c'est un animal pacifique. Et l'oracle de Zacharie, il nous dit, mais c'est un roi qui n'est pas là pour faire la guerre et pour apporter la paix, et pas simplement la paix à Israël, mais à toutes les nations. Vous voyez comme c'est bien vu de la part de Jésus. Les gens viennent peut-être avec l'idée, bon, bah, puisqu'il est là, les Romains n'ont qu'à bien se tenir, et il vient vraiment dans une optique pacifique et de réconciliation de toute l'humanité. On a en tête, évidemment, ce que disait l'évangéliste. Il disait ça, il est mort pas simplement pour la nation, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire vraiment donner, rassembler dans l'unité, c'est rassembler dans la paix tous les hommes. Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet, et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Bon, on a déjà vu ce thème-là. Par exemple, lors de la purification du temple. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est bien en effet parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, vous le voyez, vous n'arrivez à rien, voici que le monde se met à sa suite. Il y a toujours cette crainte comment dire, de cette concurrence entre Jésus et les pharisiens, mais en fait, c'est entre l'Église et le judaïsme proto-rabbinique, par transparence, à la fin du 1er siècle. Il y avait là quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête, alors sans doute des craignants Dieu, donc c'est des gens qui ne sont pas juifs, mais qui ne sont pas circoncis, mais ils reconnaissent, ils lisent la Bible, ils lisent la Bible juive, et ils reconnaissent, ils ne sont plus idolâtres. Ils s'adressèrent à Philippe et lui firent cette demande, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, et ensemble, ils le dirent à Jésus. Pourquoi ces précautions? Parce que c'est pas évident. Ouais, il y a quand même l'idée qu'entre les païens et les juifs, entre les païens et Jésus qui est le Messie, comment est-ce que le contact se fait? Jésus leur répondit en ces termes, elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, il va pas les voir tout de suite, mais il dit patience. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance, donc il prophétise sa mort et sa résurrection. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît dans ce désir de païens, alors craignant Dieu, mais quand même des païens, de devenir ses disciples, ça le renforce dans l'idée que son heure est venue. Il s'agit effectivement d'ouvrir le salut à tous les hommes, comme ça nous a été dit, rassembler les enfants de dispersés, comme ça a été redit par l'oracle de Zacharie, Zacharie 9. Mais comment est-ce que c'est accompli? Ben, par la mort et la résurrection de Jésus. Jésus ne peut pas ouvrir le judaïsme aux païens en faisant l'économie de sa mort, en fait. Il faut, donc, c'est pas, il ne va pas leur donner rendez-vous, mais il va répondre de manière encore plus forte et plus belle à leur demande, puisqu'il va mourir pour eux, finalement. Et en mourant pour ces quelques Grecs, il va mourir pour tous les hommes. En fait, c'est une manière de nous faire sentir que Jésus est mort pour tous les hommes. Alors là, il y a l'équivalent johannique de l'agonie. Maintenant, mon âme est troublée. Alors, il n'est pas à Gethsémani. Bon, on sait ça. On sait que Saint Jean, dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'épisodes anticipés. L'âme de Jésus est troublée. Pourquoi? Ben oui, parce que là, il dit, mon heure est venue. Donc, après avoir échappé à je ne sais pas combien de lapidations, s'être caché, maintenant, c'est plus l'heure de se cacher. Il faut affronter la mort en face. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Où est-ce qu'on a cette phrase où Jésus dit, Père, sauve-moi de cette heure? Oui, à Gethsémani, hein. Exactement, mot pour mot. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce passage. En gros, là, Jean, il dit, mais vraiment, Matthieu, il n'a rien pigé. C'est très curieux, hein. Vous voyez la liberté des évangélistes quand même, hein. Parce que là, en gros, Jésus, il dit, bon, ben maintenant l'heure est venue, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais sûrement pas. Je ne vais sûrement pas dire ça. C'est pour cette heure que je suis venu. Tout mon ministère, est finalisé par cette présence. Donc je ne vais pas dire au dernier moment, ben, pourvu que ça passe à côté, bon, finalement, je veux bien y aller. Donc, là, vraiment, oui, la liberté, ça nous aide à comprendre comment les évangiles, c'est pas, c'est vraiment des œuvres théologiques. Hein. Il y a évidemment une historicité de fond. Hein, mais ça n'est pas des reportages. Là, vous voyez, c'est même pas de dire, bon, ces deux, ils ont. Il y a vraiment. Saint Jean n'est pas content que Saint Matthieu présente l'agonie à Gethsémani comme ça. Et en gros, oui, mais t'as rien pigé à Jésus, en fait. Enfin, t'as rien pigé, j'exagère, mais cette demande de Jésus à Gethsémani, il ne faut pas la prendre comme ça. Depuis le début, Jésus est venu pour cette heure, et maintenant, ben, ça y est, il va glorifier le Père. Père, glorifie ton nom. Bon, alors là, j'avance un peu. Bon, mince, j'ai pas le temps de finir. Alors, l'épilogue, j'avance un peu. L'épilogue, il y a simplement, je suis au verset 37, je dis deux choses très rapides. C'est le constat d'échec. Quoi qu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui, de telle sorte que s'accomplit la parole que le prophète Isaïe avait dite. Seigneur, qui a cru ce que nous avons entendu dire et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Voilà, donc, c'est un constat d'échec, mais en même temps, ça nous fait sentir que c'est nécessaire que l'évangile ne s'arrête pas à une prédication et à un motif qui aurait pu coller bien avec les gnostiques. Simplement, Jésus vient et nous révèle la vérité, et puis bon, ben, il s'en va. Ça ne peut pas être simplement par la transmission de paroles ou même le fait de faire des signes que la foi arrive. Il faut quelque chose de plus qu'est la mort de Jésus. Et cet échec de la prédication de Jésus n'est pas, enfin, c'est un échec sans être un échec parce que c'était prophétisé par le Isaïe. Allusion au serviteur souffrant. Alors évidemment, le serviteur souffrant, ça colle très bien avec la passion qui va venir. Ou le serviteur qui bizarrement parle au pluriel. Alors là, pour Saint Jean est très content parce que pour lui, c'est la manière de dire, c'est la communauté johannique qui s'exprime avec cette parole et donc aussi Jésus. C'est Jésus et la communauté johannique qui a cru ce qu'on nous avait entendu dire. Donc nous, on a compris, mais pas les autres. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'était écrit, Isaïe avait prévu que, ben, il y aurait une espèce d'échec de cette mission prophétique, en tout cas de transmission de la parole de Dieu. Échec, mais que Jésus va traverser et dépasser, puisque ben, à partir du chapitre 13, c'est plus il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, au sens d'Israël qu'il n'a pas reçu, mais au moment d'aimer les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est le même mot, c'est en grec, c'est idioi, mais les siens a changé. C'est plus Israël, ça je vous ai précisé le prologue, hein. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, la donné de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de chair, ni d'une volonté de sang, mais de Dieu. Et en fait, à partir de Jean 13, ça va être l'Église qui prend la suite. Et le même Isaïe a indiqué la raison pour laquelle il ne pouvait pas croire, et là, il va citer la vocation d'Isaïe au chapitre 6 d'Isaïe. Donc le premier verset, c'est Isaïe 53, le serviteur souffrant. Là, c'est la vocation d'Isaïe, un texte un peu bizarre où Isaïe a une espèce de transport mystique dans le Saint des Saints. Il voit Dieu sur son trône, il voit les chérubins, il y a le trisagone, hein, saint, saint, saint. Bon. Et puis Dieu dit qui enverrai-je. Alors Isaïe dit moi, envoie-moi. Et puis alors il y a un chérubin qui vient lui mettre un charbon de l'autel pour purifier ses lèvres, puisqu'il va parler, tout en lui disant mais tu vas parler, mais ils vont pas t'écouter. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, que leur cœur ne comprenne pas. Qu'ils ne se convertissent pas et je les aurai guéris. Donc, de nouveau, l'échec prophétique. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est pas très motivant, mais c'est vrai qu'assez souvent dans la Bible, on l'a chez Jérémie, on l'a chez Isaïe, Dieu dit: Bon, ben, je vais te donner la mission de prophétiser, mais te fais pas d'illusions, personne ne va t'écouter. Mais vas-y quand même, c'est important. Alors, Saint Jean commente de manière géniale: Cela, Isaïe le dit parce qu'il avait vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Vous voyez, ça c'est étonnant, mais j'aime beaucoup ce passage-là. C'est exactement comme en Jean 8, Jésus dit: Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. Et ici, Saint Jean dit: Mais quand Isaïe a été transporté mystiquement, c'est un peu bizarre, hein, il n'est pas allé, il pouvait pas, c'était un laïc, hein, il n'avait pas le droit d'entrer physiquement dans le Saint des Saints, mais il y est entré par une espèce d'extase. Et tout cette espèce de grand truc là, donc c'est un peu de l'apocalyptique, hein, on disait ici, ils voient un peu le trône de Dieu, les charbons ardents, enfin le tout gros truc, les effets pyrotechniques habituels. En fait, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la gloire de Dieu. Or, voyant la gloire de Dieu, qui révèle la gloire de Dieu? C'est Jésus, donc il a vu Jésus. Donc en fait, la vocation d'Isaïe, ce qui a été révélé à Isaïe, c'était le Christ. En fait, dans cette vision mystique, Isaïe a vu Jésus de telle sorte que ben, les oracles d'Isaïe, dans un premier sens, parlaient de l'actualité assez immédiate, mais dans un deuxième sens, parlaient de Jésus. Bon, et puis à la fin, à partir du verset 44 jusqu'au verset 50, il y a un petit résumé qui nous surprend un peu. Ça aurait pu se terminer au verset 43. Pourquoi ça n'a pas marché? Il préférait la gloire qui vient des hommes à la gloire qui vient de Dieu. Il faut choisir. La gloire des hommes, c'est la renommée. Gloire, ça veut dire ça. Donc ça, hein, c'est la bonne renommée. Donc parce que vous êtes riche, parce que vous êtes savant, parce que vous êtes puissant, parce que vous avez réussi, parce que enfin, tout ce qui fait qu'on est renommé, enfin tout ce que les hommes, tout ce, comment dire, tout ce que les hommes désirent et tout ce derrière quoi on court, c'est la renommée des hommes. Donc en langage biblique, la gloire. Et Jésus, l'évangéliste, nous dit, bon, ben, la gloire des hommes, c'est un truc, la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est l'amour qui se manifeste par le don total de soi sur la croix. C'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni le fait d'avoir réussi, ni. Enfin, c'est rien de tout ça. Et faut choisir entre les deux. Ça aurait pu s'arrêter là, mais il y a une espèce de petit résumé, versets 44, 40, 50, où Jésus prend une dernière fois la parole. C'est un peu bizarre. Mais en gros, c'est un résumé de trucs qu'on a en Jean 3, en Jean 5, en Jean 7. Bon, quasiment tout ce qu'on a là, il l'a dit avant. C'est une dernière manière, si vous voulez, de faire le point sur qu'est-ce que Jésus nous a enseigné dans ce fameux livre des signes qui prend fin au chapitre 12. Et puis au chapitre 13, ben, on bascule dans le deuxième grand volet de l'évangile qui est le livre de la gloire, qui ira jusqu'au chapitre 20, parce que je vous rappelle la structure de l'évangile de Jean. Chapitre 1, prologue. Chapitre 2 à 12, livre des signes. Chapitre 13 à 20, livre de la gloire. Chapitre 21, épilogue. Bon, j'ai.